une certaine conviction, en fait. J'avais reçu une éducation chrétienne avec certains principes, et j'avais toujours ça en moi. Et entre deux, j'ai fait partie d'une association de modélisme dans ma région. Et j'ai fait une mauvaise rencontre. J'ai fait la rencontre d'un manipulateur pervers qui a abusé de moi pendant plusieurs années. Donc ça a duré à peu près 9-10 ans. Alors que j'avais 18-19 ans à l'époque, donc j'étais déjà majeur. Lui, cette personne avait 22 ans plus que moi. Et donc j'ai subi pendant ces années, progressivement, par sa manipulation, son conditionnement, j'ai subi des abus sexuels. Et puis un jour, j'ai eu la force d'en parler à mes parents, qui s'étaient plus ou moins posé des questions, mais j'avais toujours nié ces... Enfin, je leur avais jamais avoué ces abus. Et donc j'ai trouvé la force de leur dire. Donc aussitôt, j'ai eu un grand soutien de la part de ma sœur et mes parents. Donc j'étais contraint de laisser l'association sur le moment, parce que ça s'est su dans l'association, donc le président m'avait conseillé de quitter l'association. Et s'en est suivi de la part de cet homme du harcèlement, par courrier, par SMS. Des fois, il m'attendait au pied de chez moi quand j'allais travailler. Donc j'étais, en fait, quand j'ai arrêté ces relations avec cet homme-là, j'ai des amis qui m'ont tourné le dos, des amis que j'avais croisés dans ma passion du modélisme. Mais j'ai pas pour autant arrêté le modélisme, j'ai continué. Mais j'ai trouvé une grande haine face à cet homme et face aux gens qui m'avaient tourné le dos. Donc les premières années de ma rupture, j'ai ressassé ça très régulièrement, je lui souhaitais du mal, en fait. Et puis au fil des années, 4-5 ans après, j'ai pris conscience d'une part que j'avais peu d'amis autour de moi, donc j'étais très, très seul, assez isolé. Et puis ma sœur un jour m'a dit, écoute, si tu veux retrouver des gens autour de toi, retourne à l'église. C'est un moyen pour rencontrer du monde, rencontrer des paroissiens. Et entre deux, il se trouve que, peu avant ça, j'avais déménagé une part suite au harcèlement de cet homme. Et j'ai eu la chance d'avoir des voisins qui venaient de s'installer, des jeunes mariés, et qui étaient croyants pratiquants. Ils avaient, quand ils sont arrivés, ils avaient un fils, un bébé qui venait de naître il y a un mois. Et après, ils ont eu d'autres enfants. Et donc, petit à petit, j'ai cheminé. J'ai éprouvé un peu le besoin de retourner dans une église, pas forcément de façon régulière, mais je sais pas, j'avais sans doute une attirance par Dieu. Je me disais, quelque part, ça peut pas me faire de mal, j'ai plein de blessures, ça peut pas être pire. Donc, quand est venue la proposition de ma sœur, la rentrée suivante, je crois qu'elle avait dit ça, on avait parlé en juin ou juillet, 2008, et en septembre 2008, j'ai contacté un groupe de jeunes professionnels chrétiens sur le Havre. Et donc je suis revenu, je suis allé une première soirée un dimanche soir. Et petit à petit, j'ai fait une deuxième soirée, et après il se trouve qu'il y avait un week-end de proposer avec ce groupe, j'y suis allé. Et puis, pour la première fois depuis une quinzaine d'années, je suis retourné à la messe, en fait. Là, il y avait une messe le soir après le week-end, et donc j'y suis allé. Je me suis senti un peu obligé d'y aller pour suivre le groupe. Et le week-end d'après, je suis allé à nouveau à la messe, et petit à petit, j'ai continué à aller à la messe. Donc, je pense que Dieu commençait à faire son travail. Mais entre deux, évidemment, j'étais toujours... j'avais pas soigné les blessures qui étaient en moi, donc j'ai eu des problèmes dans ma sexualité suite à ces abus. progressivement, je me suis tourné vers la pornographie, la dépendance pornographique et la masturbation compulsive. Donc, et progressivement, cette dépendance a été de plus en plus forte, malgré que j'avais repris le chemin de Dieu. J'étais arrivé à un stade où je pouvais regarder des images pornographiques pendant des heures, et à la fin, c'est arrivé que je me réveillais le matin, j'ai mis mon ordinateur avant d'aller au travail, et je regardais toutes ces images. Le midi, je rentrais chez moi, j'avais du temps pour manger chez moi, mais il s'avère qu'à la fin, je passais tout mon temps aussi, le peu de temps que j'avais devant ces images, donc c'était 3 fois par jour, et le soir, je pouvais rester jusqu'à. Passer 3-4 heures devant sur internet à surfer sur des images malsaines. Et un jour, à une messe de mercredi décembre, en sortie de messe, toute cette période de dépendance en fait, m'a empêché de m'intégrer au groupe de jeunes professionnels dans lequel j'étais. En fait. Donc, en dehors des réunions, je n'avais pas réussi à vraiment trouver de contact, de lier de contact avec ces gens-là, avec les jeunes. Et donc, à cette messe de mercredi décembre, j'ai pris conscience que j'étais complètement isolé, je me renfermais sur moi-même, j'avais même tendance à m'éloigner de mes parents, enfin à moins communiquer avec mes parents, donc j'étais complètement replié sur moi. Et donc j'ai pris conscience que j'avais une vie complètement désordonnée, et j'ai pleuré toute la soirée. Et en même temps que je pleurais, j'ai pu exprimer à mes parents et à ma sœur ces problèmes d'addiction. Et donc, tout de suite, ils ont cherché à m'aider, à trouver des solutions. Donc, pendant 6 mois, j'ai cessé de regarder ces vidéos. Et malheureusement, j'ai rechuté 6 mois après. Et là, c'était encore plus dur parce que je savais le mal que ça faisait. D'autant que ça m'avait créé aussi des problèmes dans mon travail. J'étais plus concentré dans mon travail. Je manquais d'assiduité au travail. D'autant que j'ai un travail qui demande beaucoup de rigueur et de précision. Et donc 6 mois après, j'ai pris la décision de. Enfin 6 mois après, c'est-à-dire que j'ai rechuté, des fois j'étais quelques semaines, j'arrêtais et je replongeais. Et puis il y a un jour, un soir que j'étais sur internet, j'ai appris les fiançailles d'une amie, tout à fait par hasard. Je pense que c'est vraiment Dieu qui est venu répandre cette nouvelle pour me permettre de ressusciter. Et donc ce soir-là, j'avais lutté toute la soirée pour essayer de ne pas plonger, mais malheureusement j'avais replongé, donc j'ai appris ces fiançailles. Et là j'ai pris conscience que j'avais une vie complètement chaotique, je n'en sortais pas. Et là je pense que c'est quelques temps après ça que j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un Dieu sauveur en fait. Entre deux, mes parents m'avaient donné le nom d'une association qui traite entre autres de ces problèmes d'addiction à la pornodépendance, à la pornographie. Et donc ce soir-là, quand j'ai appris les fiançailles de mes amis, je me suis dit, eux, ils vont fonder quelque chose de bien, ils se créent vraiment un avenir, alors que moi je m'enfonce dans les difficultés. Et à ce moment-là, j'ai envoyé un mail à mes parents ma sœur. Et je leur ai dit, voilà, j'ai plus qu'une solution, c'est de faire appel à l'association Sans Parler, qui est dirigée par un pasteur protestant. Et quelques temps après, j'ai fait appel à j'ai contacté cette association très rapidement, dans les quelques jours après, je crois. Et peut-être un mois ou deux après, il m'a répondu en me disant qu'il était très pris et qu'il me fixerait un rendez-vous. Donc j'ai eu des entretiens téléphoniques pendant plusieurs mois. Et donc avec l'aide de la prière, on avait des entretiens et à la fin il y avait toujours une prière. Il remerciait Dieu pour mon travail. Il louait Dieu pour que petit à petit je progresse. Et dès la première séance que j'ai eue, dès le premier entretien téléphonique que j'ai eu avec ce pasteur, j'ai pu dire pour la première fois toutes les blessures que j'avais subies. Même si mes parents savaient certaines choses, j'avais jamais totalement évoqué toutes les difficultés que j'avais vécues. Et peut-être 3 jours après le premier entretien, je pense que là aussi c'est Dieu qui agit sur moi. J'ai coupé ma. J'ai retiré le câble internet de mon ordinateur et à partir de ce moment-là, j'ai plus retouché la pornographie. Et donc petit à petit, je vais faire un travail et j'ai réussi à retrouver une vie totalement saine, même si je suis passé évidemment par des tentations. Mais grâce à la prière, j'arrive à résister à ces tentations. En fait, quand j'ai des tentations, je prie. Je prie Dieu, je prie le Seigneur. Et voilà, et ça fait. J'ai commencé ces entretiens en 2011, donc ça fait. Depuis mars 2012 que je suis totalement guéri de ces problèmes d'addiction. Et ça, c'est vraiment grâce au Seigneur. Et je pense qu'il a mis des gens sur ma route, il a mis ses voisins qui, je pense, même si à l'époque j'étais encore dans les souffrances, m'ont permis de cheminer. Et puis, cet ami qui s'est nursé, et on est toujours amis d'ailleurs, j'étais invité à son mariage. Et je pense que c'est vraiment la providence qui a fait que cette personne-là soit venue. Sur mon chemin. Voilà.
Merci.
Merci.
Donc, si vous avez des questions, faites.
Mais c'est vrai que sans la prière, c'est très difficile de
faire face.
De faire face. Oui.
Vous êtes originaire de quelle région ?
Le Havre. Et j'habite toujours au Havre.
Est-ce que du coup, tu as ce témoignage, là, tu l'apportes aussi à des jeunes, auprès des jeunes aussi ?
Ah, c'est la deuxième fois que je témoigne.
Ah ouais, bah, bravo en tout cas. Bravo, merci, parce que c'est pas facile. Oui, oui.
On n'aura pas d'émotion, forcément.
Oui, c'est normal. Ouais. Ça va certainement servir à beaucoup de jeunes, peut-être les mettre en garde.
Oui, c'est vrai qu'on commence effectivement à évoquer le problème qui est très présent sur la toile. C'est vrai que c'est dans mon intention de témoigner davantage, effectivement, même si j'ai résumé la situation. Il y a plein de choses que j'ai vécues. Oui.
petit. J'ai une réflexion à faire, mais il ne faut pas le prendre mal. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Pour moi, un témoignage, c'est. En fait, on parle de sa. D'une expérience qu'on a eue dans la vie. Et ce que Dieu. Et la manière dont Dieu, en fait. Est rentré dans notre vie. Alors que ce que tu dis là, pour moi, c'est, ça prend la forme d'une confession publique. Et chacun d'entre nous ici, quel que soit notre parcours de vie, même si c'est parce que toi tu as vécu, les uns et les autres, ils ne sont pas mieux. Donc pour moi, c'est ce qui me fait un petit peu tiquer, cette forme en fait de confession publique, puisque chacun d'entre nous, on a d'autres travers, peut-être différents, mais peut-être dans la même profondeur en fait, d'impureté, tout simplement. Et pour moi, un témoignage, autant qu'on peut avoir, par exemple, sur la première partie de ton témoignage, où tu parles d'abus que tu as subi, etc., il y a peut-être des choses peut-être intéressantes dans le témoignage pour savoir. Enfin, peut-être les messages que le Seigneur a pu te donner pour pouvoir surmonter ce genre de choses, etc. Et sur d'autres parties du témoignage très personnel, il y a pour moi c'est quelque chose, pour moi c'est un témoignage très fort, mais qui à mon sens, s'entendre dans un confessionnal. Voilà. Pour moi, j'ai l'impression que c'est du voyeurisme, c'est très dur pour moi, mais c'est quelque chose qui est. Il y a plein de gens qui écoutent, il y a plein de gens qui voient, mais nul ne sait ce que font les autres, les uns les autres, et c'est ce que moi je ressens. Voilà. C'est pas une critique en soi, mais sur certains témoignages que j'ai déjà entendus, il y a des épreuves, il y a des choses qui se passent dans la vie. Et Dieu, en fait, fait un signe pour pouvoir aller vers lui. Mais lorsqu'on a des faiblesses, et chacun en a, pour moi, c'est difficile à entendre. C'est difficile, en fait, de voir une personne qui fait cette démarche courageuse, parce que moi, je trouve que c'est très courageux. Mais en soi, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un comme les uns les autres. Sur d'autres aspects, on est tous pécheurs. Et c'est tout, on se soutient les uns les autres, quoi. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas si j'ai bien transmis ce que je voulais faire passer, mais en tous les cas, moi, si j'avais entendu en privé ta confession, enfin, voilà, moi, en plus, j'appelle ça une confession, j'appelle pas ça un témoignage, je t'aurais plus donné le conseil d'avoir peut-être un suivi spirituel, quelque chose comme ça, mais pas le dire.
Je peux parler, moi, je peux dire.
Oui,
ça me choque beaucoup ce que tu dis, Fabien, parce que là, c'est clair que c'est une victime. Laisse-moi finir. Du coup, là, j'ai vraiment l'impression que, comme tu parles, on est tous pécheurs, c'est la victime qui devient bourreau, quoi. Enfin, je veux dire, c'était très clair qu'il a dit. Comment Dieu est rentré dans sa vie par rapport au traumatisme qu'il a subi. Pour moi, c'était très clair et je trouve que c'est d'une très grande violence. Je trouve que c'est violent quand on se met à nu comme ça, on parle de sa vie, on témoigne, c'est hyper courageux et des autres, ils viennent faire les critiques, les jugements, les commentaires sur des choses qui sont hyper intimes, hyper personnelles. Mais c'est hyper violent, quoi. Je veux dire, on se tait, on écoute, on se tait et on dit merci. Enfin, je trouve que moi ça m'énerve, ça me met en colère parce qu'il s'est mis à nu, ça me met en colère par rapport, il s'est mis à nu, il a tout donné, et puis il y en a qui viennent comme ça critiquer, faire des jugements, et même à la limite faire passer la victime pour le bourreau, quoi.
Non, mais
on est tous pécheurs, je suis désolée, là, il parle du traumatisme qu'il a subi.
Et ça va porter des
Moi, ça m'énerve, quoi. Franchement, ça m'énerve, tu vois.
C'est pas méchant, c'est pas...
Non, c'est pas une question que c'est méchant, mais faire des commentaires comme ça, c'est hyper violent, je trouve, tu vois.
Non, mais ce que je dis, non, mais qu'on comprenne bien, en fait, le fond de ma pensée, c'est pas... ce que je dis, c'est que...
C'est d'accord avec moi ou pas? Est-ce que tu es d'accord avec moi dans ce que j'ai dit? Un peu, hein, tu vois. Tu vois, j'étais sûre. J'étais sûre.
Oui, sur Internet, Fabienne, on a chacun une histoire différente. On a chacun un rapport à la douleur, on a chacun une sensibilité.
Tout à fait.
Ce que j'entends de ce monsieur, Samuel, c'est que le sentiment, et c'est une réalité, il a été sauvé.
Tout à fait.
Donc c'est différent d'une confession. Il ne confesse pas qu'il a été pécheur. Je suis d'accord avec Gabriel, c'est qu'il est d'abord un victime d'un pervers narcissique.
Tout à fait.
Les pervers narcissiques sont des gens monstrueux. Ils font le mal.
Oui,
ils sont les instruments du mal. Donc c'est au-delà de la confession, c'est un témoignage. C'est-à-dire que cet homme a plongé, il a été aliéné psychologiquement, il a été mis à terre, probablement qu'il a eu des violences suicidaires. Il a été aliéné par le malin. Donc c'est pas une confession, c'est un témoignage. Le Seigneur l'a relevé. Le Seigneur est allé le chercher.
Maintenant, il n'y a pas de commentaire à faire sur est-ce que c'est un témoignage ou pas. C'est son témoignage, chacun notre façon de témoigner.
Non, mais je suis désolée.
Et puis, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, quoi.
Il peut avoir une autre sensibilité.
Non, mais c'est pas...
vis-à-vis de... Je trouve que c'est hyper violent pour...
Non, mais...
T'es d'accord avec moi ou pas? Est-ce que c'est violent?
Écoutez, avant de commencer, j'ai déjà dit que ça va être troublant, mais effectivement, c'est très troublant. Bon, enfin, je l'ai rencontré pendant la retraite. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Donc, je l'ai rencontré pendant la retraite. Donc, dans cette retraite, il y a plein de témoignages de ce genre. En fait, les gens utilisent les confessions, mais... dans le témoignage, il y a toujours une partie très difficile à parler, toujours. Mais il ne dit pas tout, mais lui, il a le courage de dire des vraies choses qui vraiment qui touchent beaucoup de jeunes, il n'y a pas d'âge, il y a beaucoup de gens. Et comme j'ai dit au début, comment nous, en tant qu'image de Dieu, comment notre image de Dieu, comme on était créé, est menacé par plein de choses. Et dans ce monde, et son témoignage montre effectivement c'est quoi la menace. C'est quoi la menace et Dieu, comment il intervient pour nous sauver de ce menace réelle. Et il y avait plein de témoignages qui est beaucoup plus grave que ça. Pendant leur tête, j'ai entendu beaucoup plus de témoignages, beaucoup plus graves. Beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel. Mais pourquoi ces témoignages? Parce que si il dit simplement j'ai vécu ça, et c'est comme ça, je confesse, c'est pas ça. Il montre comment le Seigneur est intervenu précisément, dans quel moment, avec quelle personne, par quel chemin. C'est ça le témoignage. Donc s'il n'y a pas cette partie, ce n'est que la confession, comme tu dis, confession publique, et ce sera un peu gênant d'entendre ça. Mais ce que nous, c'est le péché, c'est toujours quelque chose de troublant et gênant.
Mais, et la sexualité.
Et le péché, le Dieu vient nous sauver. C'est le péché plutôt. Il y a un côté béni dans le péché, je pense. C'est ce que le Seigneur vient nous sauver. Et dans le cas de, enfin lui, s'il vient déjà témoigner, c'est qu'il est sorti de ses péchés, de sa vie du passé, et ce courage, il est déjà dans la lumière. Et c'est ça ce qu'il veut témoigner. Cette partie
qu'il
veut témoigner. Mais pour parler de ça, pour expliquer le parcours que Dieu lui a fait, il ne faut passer par là. Il faut expliquer. Sinon, s'il n'y a pas ce fond-là, ça n'a pas de sens, ça ne prend pas de sens.
Non, mais c'est pas du tout. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je me suis peut-être mal exprimée, mais moi, ce que je dis.
Tu n'as pas entendu certaines choses.
C'est que pour moi, je reçois effectivement ce qui est dit. Ce qui est gênant pour moi, c'est que il y a donc des souffrances liées. Lié à un péché, quel que soit lequel. Et je pense que cet aspect-là, c'est un aspect, en fait, qui en soi, ça aurait pu être sur un tout autre domaine, etc. C'est vrai qu'au départ, il commence avec tu commences avec la gêne d'exprimer quelque chose, et moi je suis en fait gênée de voir que tu es en fait en souffrance, et c'est normal d'en discuter avec tout le monde, alors que moi je me dis mais qui suis-je pour voir ce type de témoignage-là? C'est ça que je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que le fond de ce qui est dit, ça ne me choque pas. Enfin, je veux dire, il y a d'autres témoignages, et c'est pas du tout ça. C'est le fait que ce qui est dit, ce que tu dis, ce que tu détailles, pour moi, c'est quelque chose, c'est ton rapport en fait avec Dieu. Enfin, je ne sais pas.
Voilà, on va lui laisser répondre dans ce cas. Il va répondre.
C'est pas méchant. Je veux dire, pour tout dire, moi, on m'a demandé de témoigner et je ne l'ai pas fait. Et bon, c'était pour toute autre raison. Et j'estime que certaines choses que Dieu m'a révélées, ça se passe entre moi et lui.
Oui.
Et parfois.
Mais lui,
là, oui, non, mais tout à fait. Mais oui, mais j'ai pas dit que.
Bah, il faut le respecter, c'est sa liberté.
Mais tout à fait. Tout à fait.
Mais okay. On va écouter.
Je vais répondre. Effectivement, Eliane parlait de la retraite qu'on a fait en Ardèche, où il y a eu beaucoup de témoignages de ce genre, des témoignages de différents degrés. On n'est pas là pour. C'est pas un concours de celui qui a vécu les plus mauvaises choses dans sa vie. Mais il y a effectivement, et il a été dit dès le départ, d'ailleurs, Gilles Bonneau, qui était responsable, organisateur de cette retraite, a dit effectivement, quand on a été blessé, on ressent un besoin de témoigner. Et c'est exactement ce que je vis depuis quelques temps. C'est-à-dire qu'on a envie de montrer aux gens, même si on a été dans le. Même si on a eu des déviances, quelles qu'elles soient. Et entre autres des problèmes d'addiction ou des blessures qu'on a reçues de la part d'autres, on a envie de témoigner quand on s'en est sorti. D'ailleurs, à cette retraite, j'ai discuté un peu avec Eden et je lui ai fait part que j'avais témoigné une fois dans un autre contexte. Et il m'a dit, c'est très intéressant, est-ce que dans 15 jours tu pourrais venir une soirée prière serais-tu prêt à témoigner? Et aussitôt, je ressentais le besoin de témoigner. Alors lui, effectivement, ça peut paraître un petit peu, enfin, tu parlais de voyeurisme, où on expose sa vie, mais je pense qu'il est difficile de... Enfin, on ne peut pas donner un parcours de résurrection sans parler de ces blessures qui nous ont conduits, qui nous ont éloignés de Dieu, parce que je me suis éloigné. Même comme j'ai dit, j'étais pas anti-chrétien, mais sauf que je m'étais éloigné de Dieu, j'avais pu aller à l'église. Voilà. Après, j'arrive en disant, en parlant de souffrance. C'est pas des souffrances, mais automatiquement, quand on témoigne en public, il y a forcément des choses, des images qui vont revenir en nous, qui peuvent nous créer des émotions et on va être moins à l'aise pour discuter. Voilà.
C'était très clair.
C'est automatique. Il y a des choses d'ailleurs que je n'ai pas dévoilé parce que c'est très dur, mais voilà. Bon, après, je suis.
Non, merci.
Les merci. Ça se donne, vraiment.
Chacun, c'est un point de vue sur ça. Mais voilà, je pense que. Il y a un besoin de témoigner, en fait. Je pense que les personnes qui témoignent avec des parcours difficiles. Le font parce que c'est un peu un besoin de répondre.
Ceci oui, pour
c'est
la.
Fruit, on peut servir d'autre
chose. Oui, c'est ça. Pour témoigner de Dieu surtout.
Oui, voilà,
c'est dans sa vie.
Dieu met des gens dans nos vies.
Puis ça nous fait prendre conscience aussi de comment les choses se passent.
Vraiment. Moi, j'ai vraiment. Pour moi, Dieu a été crucifié pour sauver les hommes. Et voilà, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Si j'avais toujours délaissé la chrétienté, je ne sais pas ce que je ferais aujourd'hui. Je me lancerais aujourd'hui. chose plus tard qui serait arrivé dans ma vie, mais d'autres événements qui auraient fait que je m'en serais sorti. Je pense que sans la prière, sans la foi, c'est difficile.
Pour la dépendance, pas uniquement la pornographie, mais aussi la drogue, il y a tas de choses, l'alcool. La dépendance est le problème de notre génération. Il y a beaucoup de gens qui passent par plein de méthodes, tout le traitement, qui n'arrivent pas à sortir de là. Et dans son cas, vraiment, on voit qu'il est sorti. Il est là pour témoigner. C'est déjà, il est sorti, ça veut dire. Et ça va porter les fruits aux gens qui souffrent de dépendance. On voit déjà un exemple, grâce à Dieu. Ça, c'est merveilleux.
Quand j'ai commencé cet entretien avec ce pasteur, au bout des trois premiers mois, il a vu que j'avais fait énormément changé. Et je me souviens qu'il m'avait dit, voilà, les trois premiers mois, on a fait un travail de purification, et maintenant on va faire un travail de reconstruction. Donc ça montre bien qu'il faut passer par l'étape où on guérit ses blessures et après on se reconstruit. On se reconstruit une vie. Parce que j'avais une image déformée de la femme de toute façon. Des pulsions. Si je voyais une femme dans la rue, un peu coquette, un peu voilà, ça me donnait des pulsions. Maintenant j'ai plus ces pulsions que j'avais à l'époque.
Donc pourtant c'est un homme qui a abusé.
Oui, et je pense que j'étais attiré par les femmes parce que ça m'est arrivé j'étais à un âge où j'étais en âge de rencontrer une femme pour faire ma vie, éventuellement fonder une famille, et je pense que c'était un manque quelque part, mais j'ai été le trouver j'ai été le trouver sur internet dans la pornographie, donc ça n'a pas été concluant ou profiteur pour mon bien-être. C'était un moyen de compenser un manque où j'avais pris une direction différente avec un homme.
C'est le principe de toutes les addictions. Quand on est blessé, on cherche à compenser par quelque chose, et très souvent les gens compensent par... De la messe. On va prendre un petit temps de silence, puis après on échangera sur comment vous comprenez les versets, ces passages. Je vais commencer. Donc, page 170, En ces jours-là, un homme vint de Baal Shalisha et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes ? Élisée reprit. Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. Alors, il le leur donna, ils mangèrent et il en resta. Selon la parole du Seigneur.
Louange à toi, Seigneur. Seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tout, tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur.
Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, mais là, Tibériade.